Étude sur les chapitres 39 à 45 de la Genèse. En lisant alternativement ces portions si intéressantes du livre de Dieu, on découvre un enchaînement remarquable d'événements providentiels tendant tous vers un grand but principal, savoir l'exaltation de l'homme qui a été dans la fosse et accomplissant en même temps divers buts subordonnés. En sorte que les pensées de plusieurs cœurs soient révélées, Luc 2, verset 35. Mais Joseph devait être exalté. Dieu appela la famine sur la terre, il brisa tout le bâton du pain, il envoya un homme devant eux, Joseph fut vendu pour être esclave. On lui serra les pieds dans les ceps, son âme entra dans les fers, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait dit, la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi envoya et le mit en liberté. Le dominateur des peuples le relâcha. Il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur sur toutes ses possessions pour lier ses princes à son plaisir et pour rendre sages ses anciens. Psaume 105, verset 16-22. Le but principal de toutes ces dispensations, il faut bien le remarquer, était d'exalter celui que les hommes avaient rejeté, et de faire sentir à ces mêmes hommes le péché qu'ils avaient commis en le rejetant. Et tout cela s'accomplit d'une manière admirable. Les circonstances les moins importantes, comme les plus solennelles, celles qui paraissent le plus favorables et celles qui semblent le plus opposées, servent à l'accomplissement des desseins de Dieu. Satan, au chapitre 39, se sert de la femme de Potiphar pour mettre Joseph en prison. Et au chapitre 40, il se sert de la négligence et de l'ingratitude du grand échanson pour le faire rester dans la prison. Mais tout est inutile. Dieu était derrière la scène, dirigeant de sa main tous les ressorts de ce vaste enchaînement de circonstances, et au temps convenable, il fait paraître l'homme de ses conseils et l'établit en un lieu spacieux. C'est la prérogative de Dieu d'être toujours au-dessus de tout. Il peut faire servir toute chose à l'accomplissement de ses grands et impénétrables desseins. Que nous sommes heureux de pouvoir suivre ainsi en toute chose la main et les conseils de notre Père, et qu'il est doux pour nous de savoir qu'il dispose en souverain de tous les instruments, anges, hommes, démons, il les tient tous sous sa puissante main et les emploie tous à son gré pour l'exécution de ses desseins. Tout cela nous est présenté d'une manière remarquable dans les chapitres que nous méditons. Dieu visite le cercle domestique d'un capitaine païen, la maison d'un roi païen. Bien plus, il visite ce roi sur son lit et fait concourir même les visions de sa tête à l'accomplissement de ses conseils souverains. Et ce ne sont pas seulement les individus et leurs circonstances que Dieu emploie ainsi, mais encore l'Égypte et tous les pays environnants sont appelés à paraître sur la scène. En un mot, la terre entière a été préparée par la main de Dieu pour être le théâtre de la manifestation de la gloire et de la grandeur de celui qui a été mis à part de ses frères, Deutéronome 33, verset 16. Telles sont les voies de Dieu, et c'est un exercice béni et fortifiant pour l'enfant de Dieu que de suivre ainsi l'œuvre merveilleuse de son Père Céleste. Arrêtez-vous un instant à la prison du chef des gardes. Voyez là un homme dans les fers, psaume 105, verset 18, accusé du plus horrible des crimes, rejeté et méprisé de la société. Puis, voyez-le élevé en un moment à la plus haute dignité. Qui pourrait nier que Dieu ne soit dans tout cela? Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, personne n'est intelligent et sage comme toi. Toi, tu seras sur ma maison, et tout mon peuple se dirigera d'après ton commandement. Seulement quant au trône, je serai plus grand que toi. » Et le Pharaon dit à Joseph, « Vois, je t'ai établi sur tout le pays d'Égypte. » Et le Pharaon ôta son anneau de sa main et le mit à la main de Joseph, et il le revêtit de vêtements de tissu, et mit un collier d'or à son cou, et il le fit monter sur le second char qui était à lui, et on criait devant lui « Abrek ». Et il l'établit sur tout le pays d'Égypte. Et le pharaon dit à Joseph, moi je suis le pharaon, sans toi nul ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Chapitre 41, verset 39-44. Cette élévation de Joseph n'était pas une élévation ordinaire. La suite des événements qui concoururent à l'effectuer démontre clairement que la main de Dieu conduisait tout. En même temps, les différentes circonstances par lesquelles passe Joseph sont pour nous un type frappant des souffrances et de la gloire du Seigneur Jésus. Joseph est tiré de la fosse et de la prison dans lesquelles l'envie de ses frères et le faux jugement du gentil avaient mis pour être établi gouverneur sur tout le pays d'Égypte et, de plus, pour devenir le canal de la bénédiction pour Israël et le soutien de sa vie ainsi que de toute la terre. Tout cela est figuratif à l'égard de Christ et, en vérité, aucun type ne saurait être plus parfait. Un homme est amené jusque dans le lieu de la mort par la main de l'homme, puis ressuscité par la main de Dieu et élevé en dignité et en gloire. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus le Nazaréen, homme approuvé de Dieu auprès de vous par les miracles et les prodiges et les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme vous-même vous le savez, ayant été livré par le conseil défini et par la préconnaissance de Dieu, lui, vous l'avez cloué à une croix et vous l'avez fait périr par la main d'hommes iniques, lequel Dieu a ressuscité, ayant délié les douleurs de la mort, puisqu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Acte 2, versets 22-24. Mais, outre les points que nous venons de signaler, il y a dans l'histoire de Joseph deux autres événements qui rendent le type remarquablement parfait. Son mariage avec une femme étrangère au chapitre 41 et son entrevue avec ses frères au chapitre 45. Ces événements se succèdent dans l'ordre suivant. Joseph se présente à ses frères comme envoyé par le Père. Ils le rejettent et pour autant qu'il est en eux, ils le font descendre au sépulcre. Dieu le retire de la fosse et l'élève à la plus haute dignité. Dans son élévation, il épouse une femme, et quand ses frères, selon la chair, prosternés devant lui, sont complètement humiliés, il se fait connaître à eux, il les tranquillise et les introduit dans la bénédiction. Puis il devient le canal de la bénédiction pour eux et pour le monde entier. Quelques observations sur le mariage de Joseph et la restauration de ses frères ne seront pas superflues. La femme étrangère est la figure de l'Église. Christ se présente aux Juifs et, rejeté par eux, il prend place dans les hauts cieux, d'où il envoie le Saint-Esprit pour rassembler une Église élue, composée de Juifs et de gentils, destinée à être unie à lui dans la gloire céleste. Nous avons déjà parlé de la doctrine de l'Église en nous occupant du chapitre 24, mais nous trouvons ici quelques détails qui touchent au même sujet et sur lesquels nous nous arrêterons un moment. L'épouse égyptienne de Joseph était intimement associée à lui dans sa gloire. Un renvoi. La femme de Joseph représente l'Église communiée à Christ dans sa gloire. La femme de Moïse figure l'Église communiée à Christ dans sa réjection. Je reprends. Étant une avec lui, elle avait part à tout ce qui était à lui. De plus, par sa proximité et son intimité avec lui, elle occupait une place auprès de lui qu'elle seule connaissait. Il en est de même de l'assemblée épouse de l'agneau. Elle est unie à Christ pour participer à sa réjection et à sa gloire. C'est la position de Christ qui donne son caractère à la position de l'Église et c'est cette position qui devrait toujours caractériser la marche de l'Église. Si nous sommes unis à Christ, c'est comme étant élevés dans la gloire et non ici-bas dans l'humiliation. En sorte que nous, désormais, nous ne connaissons personne selon la chair et si même nous avons connu Christ selon la chair, toutefois, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. De Corinthiens 5, verset 16. Le centre de rassemblement de l'assemblée, c'est Christ. Et moi, si je suis élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi-même. Jean 12, 32. La pleine intelligence de ce principe est d'une importance pratique bien plus grande qu'il ne paraît au premier abord. Le dessein de Satan, aussi bien que la tendance de nos cœurs, est de nous faire rester en arrière du but de Dieu en toutes choses, et surtout en ce qui concerne le centre de notre unité comme chrétiens. Bien des gens pensent que c'est le sang qui constitue le centre de l'unité des saints. Le sang, infiniment précieux de Christ, est ce qui nous place individuellement comme adorateurs en la présence de Dieu. C'est le sang qui constitue le divin fondement de notre communion avec Dieu. Mais quand il est question de notre centre d'unité comme assemblée, Église, il ne faut pas perdre de vue que le Saint-Esprit nous rassemble autour de la personne d'un Christ crucifié et glorifié. Et cette grande vérité imprime à notre association comme chrétien son saint et glorieux caractère. Si nous nous plaçons sur un terrain moins élevé, nous tombons inévitablement dans quelques sectes telles que le catholicisme, le luthérianisme, le calvinisme, etc., etc. Si c'est une ordonnance, quelque importante qu'elle puisse être d'ailleurs, ou une vérité, quelque fondée qu'elle soit, qui nous rassemble, nous faisons notre centre de quelque chose qui est moins que Christ. Il est donc très important de peser les conséquences pratiques qui découlent de cette vérité, que nous sommes réunis autour d'un chef ressuscité et glorifié dans les cieux. Si Christ était sur la terre, nous serions rassemblés autour de lui ici-bas. Mais puisqu'il est caché maintenant dans les cieux, l'assemblée tire son caractère de la position de son chef là-haut. C'est pourquoi Christ pouvait dire « Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. » Et encore, « Je me sanctifie moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Jean 17, verset 16-19. Pareillement, dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 4-5, il est écrit « Duquel vous approchant comme d'une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse auprès de Dieu, vous-mêmes aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés une maison spirituelle, une sainte sacrificature, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Si nous sommes réunis autour de Christ, il faut que nous soyons réunis autour de lui tel qu'il est et là où il est. Et plus nous entrerons par l'enseignement de l'Esprit dans l'intelligence de ces choses, mieux aussi nous comprendrons quelle est la marche qui nous convient. Ce n'est ni dans la fosse ni dans la prison que l'épouse de Joseph lui était unie, mais dans la dignité et la gloire de sa position en Égypte. Et pour ce qui est d'elle, il nous est bien facile de discerner l'immense différence qui existe entre les deux positions. Mais un peu plus loin, nous lisons « Et avant que vînt l'année de la famine, il naquit à Joseph deux fils. » Un temps d'épreuve devait arriver, mais auparavant, le fruit de son union paraît, les enfants que Dieu lui avait donnés sont appelés à l'existence. Ainsi en sera-t-il quant à l'Église. Tous les membres qui la composent seront appelés, le corps entier sera complété et réuni à la tête dans les cieux avant la grande tribulation qui viendra sur tout le monde habitable. Matthieu 24, verset 21. Jetons maintenant un regard sur l'entrevue de Joseph avec ses frères. Cette entrevue présente plus d'un trait de ressemblance avec l'histoire d'Israël au dernier jour. Durant la période pendant laquelle Joseph fut caché à ses frères, ceux-ci furent appelés à passer par une grande et profonde épreuve et par des exercices de conscience des plus douloureux. Dans l'un de ces moments d'affliction, ils répandent leur cœur, disant « Certainement nous sommes coupables à l'égard de notre frère, car nous avons vu la détresse de son âme quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons pas écouté. C'est pourquoi cette détresse est venue sur nous. » Et Ruben leur répondit disant, « Ne vous ai-je pas parlé, disant, ne péchez pas contre l'enfant, mais vous n'avez pas écouté, et aussi, voici, son sang est redemandé. » Chapitre 42, verset 21-22. Plus loin, au chapitre 44, nous lisons, « Et Judas dit, que dirons-nous à mon Seigneur? Comment parlerons-nous et comment nous justifierons-nous? Dieu a trouvé l'iniquité de ses serviteurs. Nul ne peut enseigner comme Dieu. Lui seul peut produire dans l'âme le sentiment réel du péché et amener un homme à la conscience de son état devant Dieu. L'homme poursuit, insouciant, sa carrière de péché jusqu'à ce que les flèches du Tout-Puissant transpercent sa conscience. Alors il faut qu'il passe par ces douloureux exercices du cœur et de la conscience qui ne peuvent trouver de soulagement que dans les immenses richesses de l'amour rédempteur. Les frères de Joseph n'avaient aucune idée de tout ce qui devait découler pour eux de leur conduite envers lui. Et ils le prirent et le jetèrent dans la citerne et ils s'assirent pour manger le pain. Malheur à vous qui buvez le vin dans des coupes et vous oignez de la meilleure huile et ne vous affligez pas de la brèche de Joseph. Amos 6, verset 6. Toutefois, par des œuvres merveilleuses, Dieu touche les cœurs des frères de Joseph et exerce leur conscience. Les années s'étaient succédées et les frères de Joseph avaient pu s'imaginer que tout allait bien. Mais les 7 années d'abondance et les 7 années de famine arrivent, et que signifient-elles? De qui proviennent-elles? À quoi doivent-elles servir? Merveilleuse providence, sagesse incompréhensible de Dieu. La famine se fait sentir dans le pays de Canaan, et les besoins de la faim amènent les coupables frères de Joseph aux pieds de celui qu'ils ont outragé. Comme la main de Dieu se montre ici partout, l'épée de la conviction a transpercé leur conscience, et ils sont là en présence de l'homme que, avec des mains iniques, ils avaient jeté dans la fosse. Leur iniquité les a trouvés, mais c'est en présence de Joseph. Bienheureuse position. Et Joseph ne put plus se contenir devant tous ceux qui se tenaient près de lui, et il cria « Faites sortir tout le monde d'auprès de moi !» Et personne ne se tint près de Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Chapitre 45, verset 1. Nul étranger n'est admis à être témoin de cette scène sacrée, car quel étranger aurait pu la comprendre ou l'apprécier? Nous sommes appelés à voir ici en quelque sorte la vraie et divine conviction du péché, en présence de la grâce divine. Et quand cette conviction et cette grâce se rencontrent, toute question est bientôt résolue. Et Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Et il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour l'Égypte. Et maintenant, ne soyez pas attristés et ne voyez pas d'un œil chagrin que vous m'ayez vendu ici, car c'est pour la conservation de la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Et Dieu m'a envoyé devant vous pour vous conserver de reste sur la terre et pour vous conserver la vie par une grande délivrance. Et maintenant, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. C'est bien ici la grâce mettant la conscience convaincue de péché en parfait repos. Les frères de Joseph s'étant déjà jugés, Joseph n'a plus qu'à répandre le baume dans leur cœur brisé. Tout ceci est un précieux type de la manière dont Dieu agira à l'égard d'Israël dans les derniers jours, alors qu'ils regarderont vers moi celui qu'ils auront percé et ils se lamenteront sur lui. Alors ils feront l'expérience de la réalité de la grâce divine et de l'efficace de cette source ouverte pour la maison de David et pour les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. Zacharie 12, verset 10 et 13, verset 1. Au chapitre 3 des Actes, nous voyons le Saint-Esprit chercher à produire par la voix de Pierre cette conviction divine dans la conscience des Juifs. Le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous, vous avez livré et que vous avez renié devant Pilate lorsqu'il avait décidé de le relâcher. Mais vous, vous avez renié le Saint et le Juste et vous avez demandé qu'on vous accordât un meurtrier. Et vous avez mis à mort le prince de la vie, lequel Dieu a ressuscité d'entre les morts, ce dont nous, nous sommes témoins. Ces paroles avaient pour but de faire sortir du cœur et de la bouche des auditeurs la confession que firent les frères de Joseph. Certainement, nous sommes coupables. Ensuite vient la grâce, et maintenant, frères, je sais que vous l'avez fait par ignorance, de même que vos chefs aussi. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait prédit par la bouche de tous les prophètes, savoir que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et vous convertissez pour que vos péchés soient effacés, en sorte que viennent des temps de rafraîchissement de devant la face du Seigneur. Nous voyons ici que, bien que les Juifs aient donné cours à l'inimitié de leur cœur en faisant mourir Jésus, comme avaient fait les frères de Joseph dans leur conduite envers lui, cependant la grâce de Dieu envers chacun d'eux apparaît en ce qu'il est démontré que tout a été décrété et prédit de Dieu pour leur bénédiction. C'est la grâce parfaite, grâce qui surpasse toutes nos pensées. Mais pour en jouir, il faut que la vérité de Dieu ait produit dans la conscience une conviction de péché réel. Ceux qui pouvaient dire « certainement nous sommes coupables » pouvaient aussi comprendre les paroles de la grâce. Ce n'est pas vous, mais c'est Dieu. Il faut qu'il en soit toujours ainsi. L'âme qui s'est jugée elle-même est en état de comprendre et d'apprécier le pardon de Dieu.